Buongiorno a tutti. Le cose, se dobbiamo dirle in una lingua che si sa meglio, e per questo motivo voglio parlare in francese, perché la lingua, sono abituato a questa lingua, ma dopo possiamo sempre scambiare in italiano. L'Église catholique et l'édification de la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. Voilà le thème de ma communication. J'ai un texte préparé que je mets à la disposition des organisateurs. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, je vais donner seulement la synthèse de ce qui est écrit et vous aurez le temps de le lire après. Le contexte de notre travail, comme Commission Justice et Paix, en posant un regard rétrospectif sur l'histoire de la République démocratique du Congo et celle des pays de la sous-région des Grands Lacs, Rwanda, Burundi et dans une certaine mesure l'Ouganda. Nous retenons le fait que depuis les luttes pour les indépendances, le spectre des événements politiques fait de cette partie de l'Afrique centrale un espace social où les scènes de violence se succèdent, détruisant chaque fois les efforts de paix et de construction d'un État capable d'assurer l'organisation sociale dont a besoin le peuple. Qu'il s'agisse du Congo, du Rwanda, du Burundi, tous ces pays ont connu des années de conflits complexes, avec en commun la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, les violations graves de droits humains et du droit international humanitaire, l'ethnocentrisme, les déficits de réconciliation, l'impunité, l'accès aux ressources naturelles, les conflits fonciers et récemment, de façon dramatique, les génocides au Rwanda. Depuis quelques années, la situation a quelque peu évolué positivement, mais les défis à relever sont encore énormes. Les évêques, regroupés au sein de l'Assemblée des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEA en abrégé, ou au sein des conférences épiscopales nationales de ces trois pays, n'ont cessé de se faire solidaires de joie et de peine, des tristesses et des angoisses du peuple qui souffre. À plusieurs reprises, conscients de leur rôle d'éveilleurs de conscience pour la sauvegarde de la dignité de l'homme, image de Dieu, et convaincus que la promotion de la paix fait fait partie intégrante de la mission d'évangélisation de l'Église, ils ont dénoncé les dérives du pouvoir politique, appelé au respect du bien commun et élevé les options pastorales pour plus de solidarité, plus d'amour, de réconciliation, de justice et de paix. C'est autour de cette pastorale engageante que nous focaliserons notre attention au cours de cette conférence que nous avons intitulée « L'Église catholique et l'édification de la paix en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs ». Pourquoi l'Église s'engage-t-il pour la paix? Et dans le contexte de chez nous, il est très important de prendre en considération la particularité de la sous-région durant les périodes de conflit. Et pour le cas du Congo, partez du principe que nous sommes dans un pays où l'État n'assume pas sa responsabilité, il y a un déficit du pouvoir de l'État, absence totale. Et en face de celui qui est au pouvoir, il n'y a pas d'opposition, parce qu'il fait tout pour écraser l'opposition. Ainsi, l'unique contre-pouvoir dans le cas du Congo, c'est l'Église. L'Église catholique, depuis les débuts. Depuis l'indépendance, jusque maintenant, l'Église catholique a joué un rôle déterminant dans la sous-région. Et considérer que cette partie de l'Afrique est considérée, on dit, c'est la partie la plus catholique de l'Afrique en termes de pourcentage. C'est d'abord le Rwanda, où le taux de catholiques avoisine les 80%, Rwanda et Burundi. Et puis le Congo, où le taux de catholiques est autour de 50%. Ces églises ont toujours joué les rôles qui devaient revenir aux politiciens ou au gouvernement lorsqu'il y a des déficits. Ainsi, l'épiscopat du Congo a toujours joué les rôles prophétiques de dénonciation et de prévention des dérives ou de la mauvaise gouvernance. Des 60 jusqu'à maintenant, l'épiscopat congolais a fait plusieurs déclarations. Et là, vous aurez toute une liste de déclarations sur des sujets importants du moment, pendant les conflits, jusqu'à maintenant. Je vous épargne de tous ces documents, parce que vous les trouverez dans ma communication. Depuis 2008, l'épiscopat du Congo a changé de stratégie. Et le changement de stratégie a été dicté par le constat que toutes les déclarations que fait l'Église jusqu'à ce moment-là, les politiciens écoutent, mais aussitôt écoutés, ils jettent ça dans la poubelle. Et ils disent toujours, mais les évêques ont l'habitude de parler, mais ça ne change rien. L'épiscopat, en partant de ce constat, a pris la décision de changer de stratégie. Et le changement de stratégie, c'était déclaration comme on fait d'habitude, mais les déclarations doivent être accompagnées par des actions concrètes. Et l'action concrète qui a été menée depuis 2008, c'est surtout l'action de plaidoyer. Pour ceux qui ont le texte en main, Je suis à la page 6. L'épiscopat du Congo, tout en gardant les prises de position et les déclarations officielles, s'est engagé à agir. Et ça coïncide pratiquement avec mon arrivée à la tête de la commission Justice et Paix. En 2008, c'était la période que nous appelons le moment le plus fort de la guerre au Congo. Avec le conflit à l'est dans la région du Kivu, avec le chef de guerre, le seigneur de guerre qu'on appelait Laurent Kunda, qui menaçait de balkaniser le pays, c'est-à-dire de diviser, prendre une partie du Congo pour en faire une république à lui, face au fait que le gouvernement de la République du Congo s'était illustré, caractérisé par sa faiblesse fondamentale, qui ne parlait pas, et constata que sur le plan international, il y avait beaucoup de fausses informations qui circulaient sur le conflit de la sous-région, faisant croire à l'Occident des choses qui ne correspondaient pas à la réalité. L'épiscopat congolais avait pris la décision d'aller expliquer la réalité du conflit sur le terrain aux décideurs de ce monde. Une mission de plaidoyer qui a été constituée par des évêques a été envoyée au Canada, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, à Paris, en France et en Belgique. Ce sont les pays qui ont eu une grande influence sur ce qui se passe chez nous au pays pour leur expliquer la nature réelle du conflit dans la sous-région. L'impression que nous avions en arrivant dans toutes ces capitales, c'est que l'Occident avait pratiquement bu, sans discernement, la version des faits telle que laissait courir Paul Kagame, le président du Rwanda. Bien sûr, ce pays a connu des génocides et personne ne peut accepter ça. Mais ce n'est pas parce que le Rwanda a connu le génocide qu'on doit imposer une autre souffrance encore plus grande aux pays voisins. Et notre mission a consisté à aller expliquer aux puissants de ce monde la nature réelle du conflit. Nous avons été au Parlement canadien. Nous avons rencontré le ministre canadien des Affaires étrangères. Nous sommes descendus aux États-Unis d'Amérique, où l'épiscopat américain, à travers la commission Justice et Paix, nous a reçus et nous a instruits sur la méthode de plaidoyer. Ensuite, nous avons passé des journées de travail au Sénat américain, au département d'État et à la Chambre des représentants pour expliquer ce qui se passait réellement au Congo. Nous avons été voir Nicolas Sarkozy, qui avait une vision complètement erronée du problème qui se passait au Congo, et dans son bureau à l'Élysée, nous lui avons dit clairement comment nous, évêques, nous voyons la réalité du problème. Cette mission de plaidoyer a permis de désamorcer le conflit qui était là avec Laurent Kunda. Et on a vu le changement dans la position de Paul Kagame qui menaçait, à travers l'action de Laurent Kunda, de prendre une partie du Kivu. Aujourd'hui, cette théorie est difficile à soutenir. Nous avons été, considérant tout ce qui se passe chez nous, l'impunité, les viols sur les femmes, etc., on a l'impression que le gouvernement ne fait rien. Au mois de mars, une délégation de l'épiscopat s'est rendue à la Haye, aux Pays-Bas, à la Cour pénale internationale. Et j'ai dirigé cette mission surtout auprès du procureur de la Cour pénale internationale Moreno sur ce qui se passe chez nous dans la région des Grands Lacs. Nous avons eu l'impression et nous saluons tout ce que la Cour pénale internationale fait pour arrêter tous les délinquants qui sèment la mort et la désolation dans la sous-région. Nous saluons l'effort. Mais nous avons été ahuris et attristés en constatant qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Il y a des criminels de guerre qui continuent à courir et qui sont soutenus par le pouvoir en place. Paul Kagame qui soutient Laurent Kunda, contre qui un mandat d'arrêt international a été émis. Le président du Congo, Joseph Kabila, qui soutient Bosco Tangada, un criminel de guerre, qui a du sang sur la main, il est protégé par le gouvernement et ils sont là, ils circulent librement pendant que d'autres fils du Congo sont à la CPI. Nous avons été pour leur expliquer le risque que cela peut créer comme tension parmi le peuple de constater que la Cour pénale internationale applique deux poids, deux mesures. Ne parlons pas des cas du Soudan, parce que là la Cour pénale est impuissante. Avec Béchir qui continue à circuler alors qu'il a de la main, du sang sur la main. Le problème, c'est la tension qu'il y a entre ce qu'on appelle aujourd'hui la justice pénale et la justice transitionnelle. Au nom de la réconciliation, au nom de la paix, on a tendance à mettre en évidence la justice transitionnelle au mépris de la justice, laissant courir des criminels. La conférence épiscopale du Congo est très engagée sur ce point et dernièrement, nous avons organisé une grande rencontre à Kinshasa que nous avons appelée le sommet alternatif de la société civile regroupant le Congo et tous les pays voisins pour étudier les conséquences des conflits qui nous viennent surtout des pays voisins, notamment l'Ouganda avec l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony. La guerre s'est déplacée de l'Ouganda et les victimes sont actuellement au Congo et en République centrafricaine. Le Rwanda, avec le problème de CNDP qui est à la frontière et qui continue à s'approvisionner, etc. Il fallait que nous, comme commission justice et paix de tous ces pays, nous nous mettions d'accord pour définir une politique commune. Ça, c'est la grande politique de plaidoyer qui est un élément fondamental actuellement de notre pastoral au Congo. Aller vers les décideurs et leur parler directement, dès lors que nos gouvernements sont des gouvernements incompétents et des gens qui ne se soucient pas du tout du peuple. L'instrument de travail de reconstruction de la paix en République démocratique du Congo et dans les autres pays, c'est essentiellement la commission épiscopale justice et paix. Cette commission fait un travail énorme dans la sous-région et je regroupe le travail de cette commission autour de six points. Six points. Ce que la commission a d'abord fait. Premier point, c'est l'organisation et la redynamisation de la pastorale de justice et de paix. Depuis sa création en 1998, la Commission a mis en œuvre son programme de renforcement des capacités des commissions diocésaines justice et paix, avec la création des commissions justice et paix dans tous les diocèses et dans toutes les paroisses. Chaque paroisse à sa condition chez ses pères pour répercuter l'enseignement de l'Église et les directives de l'Église en matière de justice et de paix. Toute cette organisation de justice et de paix à la base constitue un vaste réseau de réappropriation de l'enseignement social de l'épiscopat en matière de droits de l'homme. Actuellement, dans notre pays, vous savez, notre pays, depuis la guerre, c'est un pays qui vit un peu comme tout le monde court derrière le pouvoir, tout le monde veut être ministre. Mais qui se soucie du peuple, il n'y a personne. Mais à travers les structures de l'Église catholique, c'est la seule réalité qui représente, qui couvre l'ensemble du pays, et le gouvernement parfois s'appuie sur nous si on veut faire passer des choses à la base. Deuxième élément du travail de la commission justice et paix, l'édification de la paix. Édification de la paix. C'est un volet important du travail que nous faisons actuellement dans la sous-région. La commission justice et paix s'est tellement impliquée dans l'édification de la paix depuis la sortie des crises que nous avons connues, soit au Congo, au Rwanda et au Burundi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la paix revienne dans le cœur des enfants habitant cette sous-région des Grands Lacs? Le premier volet de l'édification de la paix, c'est d'abord le volet de la protection des personnes vulnérables et des droits humains. À chaque fois qu'il y a des conflits dans la sous-région, on a tendance à se venger contre les autres. Vengeance entre les ethnies, entre les tribus, ou entre des régions, ou entre des pays. Le rôle de la commission justice et paix, c'est d'éduquer le peuple à ne pas recourir à cette méthode. Et la commission justice et paix a beaucoup travaillé pendant la guerre, notamment le conflit qu'on a eu au Congo, à Kinshasa, en 1996-1997, lorsque il s'était avéré que derrière la guerre qu'on menait contre le Congo, il y avait le Rwanda et le Burundi. Il y a eu une réaction du peuple pour s'attaquer aux Rwandais et aux Burundais qui se trouvaient à Kinshasa. Ça a été un moment critique pour la commission justice et paix d'aller chercher ces gens, les cacher et surtout les faire traverser sur le fleuve Congo en direction de Brazzaville, République du Congo, le pays qui est en face. Moi, j'ai fait ce travail alors que je n'étais pas encore évêque. Nous avions traversé beaucoup de gens en pirogue pendant la nuit dans l'obscurité. Et toute la nuit, tu ne dors pas parce que tu te poses des questions. Est-ce que ces gens sont arrivés sains et saufs? Avec le risque que du point de vue du gouvernement, nous étions considérés comme des gens qui étaient en intelligence avec l'ennemi. Le deuxième volet de l'édification de la paix, c'est le volet de la gestion et transformation de conflits ou de construction de paix. Gestion de conflits et la construction de la paix entre les membres des différentes communautés. Nous avons développé un vaste programme, deux projets que nous avons exécutés, surtout au Congo, deux projets complémentaires. Le premier projet visait la formation des parajuristes. Vous savez, chez nous, il n'y a pas beaucoup de juristes, des gens qui sont formés, qui connaissent les droits. Alors la commission justice et paix a formé des para-juristes, des gens qu'on forme sur l'État pour aider la communauté à résoudre des problèmes de conflits qui se posent sans devoir recourir au tribunal. Et là, ça a beaucoup aidé. Au Rwanda, ça a pris une tournure même beaucoup plus officielle avec ce qu'on a appelé les gachacha, qui a été voulu par le pouvoir en place pour désengorger les prisons. Mais chez nous, au Congo et au Burundi, ce n'est pas quelque chose qui a été voulu par le gouvernement, mais initié par la commission justice et paix en formant des gens, des parajuristes, qui aident les différentes communautés à résoudre à leur niveau les conflits qui se posent. Le deuxième volet a porté sur la formation en technique de gestion de conflits. Il devait connaître ça, quelles sont les techniques de la gestion de conflits, et ça a porté un résultat énorme pour résoudre les conflits entre les membres de la communauté. Ça, c'est le point 2. L'édification de la paix. Et ces projets continuent à courir, notamment au Congo et au Burundi. Troisième volet du travail de la Commission Justice et Paix, c'est l'éducation civique et électorale. Éducation civique et électorale. Les élections que nous avons eues en 2004, que ce soit au Congo, et surtout au Congo, au sens vrai du mot, ont été les premières élections démocratiques. Dans cette région, on n'a jamais organisé de vraies élections démocratiques et libres depuis la dictature de Mobutu. Un peuple qui n'a jamais voté et devait se préparer à voter sans savoir même ce que signifie voter et comment se comporter. Le gouvernement n'avait aucun intérêt à former le peuple. Et ça a été un programme de la Commission Justice et Paix qui a développé tout un vaste programme à travers le pays pour éduquer le peuple sur le sens de ces gestes d'élection, et c'est ça que nous avons appelé éducation civique. Si je suis citoyen du pays, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs? Et aller voter, qu'est-ce que cela signifie? Comment je dois me comporter? Ce programme a été soutenu par la Commission Justice et Paix du Canada, et ça nous a permis de développer un vaste programme pour l'ensemble du pays, et nous avions formé plusieurs personnes qui ont pu animer des sessions à travers le pays. Au moins 98 490 formateurs qui ont sillonné le pays pour éduquer le peuple. De ce point de vue, si les élections passées ont réussi au Congo, on peut quand même dire, pour une certaine mesure, ça a été grâce au travail de la Commission Justice et Paix, alors que le gouvernement ne s'intéressait pas du tout à l'éducation civique et électorale du peuple. Quatrième volet du travail de la Commission après l'éducation civique et électorale, c'est réconciliation et bonne gouvernance. Réconciliation et bonne gouvernance. Après le conflit que nous avons connu, qui n'est pas encore complètement terminé du côté de l'Est, et au nord du pays, avec les éléments des LRA, armée de résistance du Seigneur, LRA. Il y a beaucoup de blessures dans les cœurs des personnes. Il y a beaucoup de blessures dans les cœurs des communautés. La Commission Justice et Paix a pris la résolution de développer des programmes pour aider ces communautés à tourner la page de conflits passés et à regarder vers l'avenir. Nous avons créé ce qu'on appelle aujourd'hui au Congo les comités locaux pour la gouvernance participative. Comités locaux de gouvernance participative. Ce sont les communautés qui s'organisent pour gérer les problèmes qui intéressent la communauté. Quand il y a un problème, par exemple, d'eau, un problème de route, un problème de marché, ce sont les gens qui se réunissent, ils discutent ensemble de ce qu'ils doivent faire et trouvent des solutions qu'ils imposent parfois aux autorités de l'État. Nous savons que l'État chez nous, c'est un État prédateur. Les autorités de l'État sont là pour prendre. Alors là où le peuple est organisé, les agents de l'État n'ont pas la vie facile parce que les gens sont conscientisés et ils savent défendre leurs intérêts. Et le travail de la Commission Justice et Paix, c'est de créer ces comités locaux de gouvernance participative en y incluant tous les membres de la communauté, pas seulement les catholiques. Ce sont tous les membres de la communauté, quelle que soit sa confession, quelles que soient ses origines, pour défendre les intérêts de la communauté locale. Et je dois dire, partout où les comités locaux de gouvernance participative fonctionnent, il y a une grande prise de conscience et l'État a des difficultés à se comporter n'importe comment vis-à-vis du peuple. Nous avons créé ce qu'on appelle liaison parlementaire. Il y a eu des élections chez nous. Nous avons envoyé des parlementaires au Parlement, des députés. Mais la plupart des députés qui ont été élus par le peuple n'ont aucune idée sur le travail d'un Parlement. Parfois, c'était des gens qui sortaient de nulle part et ils vont au Parlement. La Commission Justice et Paix a créé le liaison parlementaire, c'est-à-dire notre représentant qui assiste au débat au Parlement, nous donne des informations et aide certains parlementaires dans les coulisses pour les ramener autour de certains idéaux. Et nous avons organisé des sessions de formation de certains parlementaires provinciaux. Ça s'est déjà fait dans certaines provinces du pays, notamment à Bukavu. Cinquième volet de notre travail, c'est la gestion responsable des ressources naturelles. Les ressources naturelles. Vous savez, le Congo, c'est un pays très riche. On dit même un scandale géologique. Une richesse potentielle. Mais le peuple qui vit sur cette grande richesse est considéré comme un des peuples le plus malheureux, le plus pauvre de la Terre. Beaucoup de richesses comme ressources naturelles et grande pauvreté du peuple. L'exploitation de ces ressources naturelles du Congo est ce qu'on appelle le nerf du conflit qui déchire la solution. Le secret du conflit qui ensanglante la sous-région, c'est l'exploitation de ressources naturelles. Le travail de la Commission Justice et Paix a été de sensibiliser le gouvernement à une meilleure gestion de ressources naturelles et au sortir de la guerre, la Commission Justice et Paix, en collaboration avec les autres églises et la société civile, nous avons réussi à obliger le gouvernement à revisiter les contrats qui ont été signés pendant la guerre. Et c'était des contrats qui profitaient plus à ceux qui ont investi, tandis que le peuple n'avait rien. On a dû revoir tous ces contrats et le travail continue à se faire au niveau de la commission Justice et Paix. L'épiscopat a créé une commission ad hoc, chargée spécialement de la gestion des ressources naturelles, et qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour que les richesses du Congo puissent profiter aux enfants du pays, pas seulement à ceux qui investissent. C'est un problème énorme actuellement chez nous, parce qu'entre l'Occident et la Chine, il y a des conflits autour de l'exploitation des ressources naturelles. Les Chinois se sont installés au Congo comme ils se sont installés dans beaucoup de pays d'Afrique, non pas pour le développement de ces pays, mais c'est pour l'exploitation des ressources naturelles. L'Occident ne veut pas de la Chine dans cette partie d'Afrique et il se crée un conflit entre eux. Mais du point de vue du peuple, que ce soit l'Occident, que ce soit la Chine, il faut revoir la répartition des gains tirés de l'exploitation de ressources naturelles. Enfin, dernier volet, sixième, c'est la promotion de la dignité de la femme. La femme. Les femmes jouent un rôle très important dans nos sociétés traditionnelles, mais souvent en second plan. Nous avons pris conscience que les conflits que nous vivons actuellement dans la sous-région pourraient évoluer autrement si la femme était plus engagée, était plus formée, avait pris conscience du rôle qu'elle peut jouer pour faire évoluer les choses. Des grands projets ont été faits par la commission justice et paix que nous avons appelée Dynamique Femme. Dynamique Femme. Il y a des formations en cascade dans les différents diocèses pour les femmes et même des comités locaux de gouvernance participative uniquement pour les femmes, pour les aider à prendre conscience de leur rôle. Et ça porte beaucoup de fruits et d'espoir là où ces comités fonctionnent. C'est aussi à travers cette formation que les femmes ont été sensibilisées sur les dangers que représente le protocole qu'on avait appelé le protocole de Maputo, avec la nouvelle idéologie, la nouvelle éthique. La nouvelle éthique qui domine le monde aujourd'hui au nom de la liberté de la femme, au nom du droit de la femme, on risque de faire des choses pires qu'avant. Donc, la femme doit rester prudente tout en assumant sa responsabilité, mais elle ne doit pas tomber dans la nouvelle idéologie qui gouverne le monde aujourd'hui. Conclusion. La commission Justice et Paix au Congo est une commission qui est très engagée aux côtés du peuple. Et c'est un peu comme le bras armé de l'épiscopat congolais pour des actions de paix, de réconciliation entre le peuple. Les programmes de la commission Justice et Paix du Congo ont même été adoptés du temps du cardinal Martino, qui s'est retiré maintenant, alors président du Conseil pontifical Justice et Paix, pour étendre à d'autres pays, notamment la vulgarisation du compendium qui a été rendu public. Le travail est énorme. Et ce travail ne peut se faire que si nous avons la passion de l'homme. Depuis que moi je suis à la tête de la commission, je fais mon travail d'abord comme évêque, parce que je suis investi par les évêques du Congo et depuis une année par les évêques du Rwanda et du Burundi pour continuer avec ce travail aux côtés du peuple. Mais le secret, le premier secret de mon engagement, c'est d'abord mon état de frère mineur, capucin, fils de Saint-François d'Assise. L'amour de l'homme, la passion de l'homme fait qu'un fils de Saint-François, vivant dans des régions comme chez nous, où la personne humaine n'a plus de valeur, n'a plus de dignité, ne peut que nous pousser à nous engager à fond aux côtés de notre peuple. Et c'est peut-être l'invitation que je lance à tout le monde. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs dans cette maison. C'est de nous aider à étendre cette action et partout où nous sommes, d'être de véritables témoins de l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Or, la justice et la paix ne peuvent régner dans la sous-région, chez nous des Grands Lacs, que s'il y a la justice. Justice autour de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Tant que l'exploitation de ressources naturelles continuera à se faire comme ça se fait maintenant, la guerre dans la sous-région ne finira pas. Alors nous avons à voir, peut-être il y en a qui sont issus de pays qui ont une certaine influence sur ce qui se passe dans la région, de nous aider à résoudre ces problèmes de l'exploitation illicite et illégale de ressources naturelles du Congo. La neutralisation de groupes armés. Il y a beaucoup de groupes armés qui circulent et qui profitent à des gens qui ont intérêt à ce que le conflit continue. La réforme de l'armée, il n'y a pas une bonne armée chez nous. Ce sont des armées composées de, on dirait, de délinquants qui n'ont aucun respect du peuple. Et tristement, vous aviez entendu lors de la rencontre des femmes à Bukavu, la ville de Bukavu, au Kivu, a été déclarée la capitale des viols. Viols sur la femme. C'est dans cette partie du monde où la femme est considérée comme un jouet, où le viol sur la femme est considéré comme une arme de guerre. Si on veut ridiculiser un peuple, on commence d'abord par s'attaquer à ses femmes et à ses filles. Et c'est ce qui se fait chez nous. Notre combat, notre lutte dans la région, au nom de la dignité de nos frères et sœurs, nous pousse à continuer à mener ce combat. Et pour cela, nous avons besoin de nous mettre tous ensemble pour être plus forts. Je vous remercie.